ce soir. Pour le dossier, on va vous diffuser, donc, comme je vous le disais en début d'émission, la dernière partie, la dernière table ronde de l'initiative qui s'intitulait Les Roms et qui d'autres. À cette table ronde, donc cette dernière table ronde qui s'intitulait Face à la dérive politique actuelle, quel engagement ? Alors, bonne question, effectivement. Et en fait, avant d'entendre les intervenants de cette table ronde, on va entendre d'abord, un témoignage d'une dame qui s'appelle Gabriela et qui est rome de Roumanie et qui faisait partie des roms hébergés par le lieu où on était, c'est-à-dire la Parole errante à Montreuil. Et donc, elle témoigne rapidement de sa situation. Ensuite, on entendra dans la même série d'interventions des militants du collectif de soutien aux Roms, de collectif de solidarité aux Roms de Montreuil, qui réagissaient un petit peu à l'initiative, parce que, évidemment, étant militants de terrain, peut-être que le fait de parler toute une après-midi n'est pas tout à fait efficace. Donc, d'abord, on entendra quelqu'un qui lira un texte qui a été écrit par ce collectif, et ensuite la réaction un peu plus vivante d'un des membres de ce collectif. Et puis on entendra également la réponse de Cécile Canu, une des organisatrices, puisque bien sûr, elle n'était pas du tout mécontente que la parole se prenne aussi en dehors des tables rondes prévues. Donc ça, c'est ce qu'on va entendre dès maintenant. Et je rappelle donc que ce rassemblement était organisé par Cécile Canu, professeure de sociolinguistique à l'Université Paris-Descartes, Cécile Kovac-Chazy, maître de conférence en littérature comparée à l'Université de Limoges, et Thomas Lacoste, qui est cinéaste, éditeur et membre de la bande passante. Donc on entend tout de suite cette série d'interventions.
Nous sommes 36 personnes. Et on est depuis 3 mois dehors. Il y a parmi nous des enfants qui vont à l'école. Mais les policiers nous ont expulsés de la maison où on habitait et donc depuis on est dehors. Je vous demande joliment, je vous prie, de nous aider à trouver un endroit ou une petite maison où habiter pour que les enfants continuent à aller à l'école. On promet que quoi qu'il arrive, dans tous les cas, on ne veut pas retourner en Roumanie, on restera ici en France. J'ai 4 enfants moi-même, dont 2 qui vont à l'école ici. Mais quoi qu'il arrive, même si on doit habiter dehors dans la rue, je les enverrai à l'école pour qu'ils ne connaissent pas ce que moi j'ai connu. Merci beaucoup à vous et merci d'être venus nombreux pour nous aider.
Si aujourd'hui on parle des Roms, ce serait bien de se rappeler que l'exploitation et la discrimination sont propres au système dans lequel on vit et qu'elles visent bien plus de personnes qu'une ethnie en particulier. On est quelques-uns à penser qu'on ne veut pas de l'humanitaire ni de la solidarité vide ou des débats unilatéraux. On est quelques-uns à s'être mobilisés avec les Roms qui sont d'ailleurs hébergés ici parce qu'on les connaisse. Et parce qu'aider des exploités à récupérer un peu d'autonomie et à se réapproprier ce dont ils nécessitent en toi, nous sommes une bataille à mener. On ne se bat pas pour les Roms, on lutte avec eux. Et quand on s'assoit ici pour parler d'eux à côté d'eux, il faudrait peut-être se demander qu'est-ce qu'on va changer comme ça. On tient aussi à rappeler qu'aujourd'hui, c'est le mode de vie des Roms qui est mis en cause, et hier ou demain vont être d'autres. C'est tout l'ensemble des lois sécuritaires que la France, comme les autres pays d'Europe, adopte, et pas seulement depuis Sarkozy, qu'il faut mettre en cause. Ce serait bien de se rappeler que les centres de rétention ont été approuvés par les partis de la gauche également, et que sans une critique profonde des rapports de pouvoir et de l'exploitation au sein de ces mêmes démocraties, les paroles restent des mots vides, des sens autant que des contenus. C'est notamment, comme notamment son mot vide, les propositions plates que la mairie de Montreuil a fait ces dernières semaines. La spectacularisation qu'on a vue cet été sur ces familles, on a bien vu à quoi ça a mené, à rien. Vendredi prochain, elles ne vont pas savoir où elles vont être logées. Sarkozy peut bien rentrer chez lui, mais ça ne va rien changer. Les préfets à la botte de l'OMP expulsent, les Verts et les autres n'en font pas moins. C'est pourquoi, plutôt que suivre les partis ou les différents orgas gouvernementaux, c'est à nous de prendre nos responsabilités dans nos immeubles, nos rues, nos villes et ailleurs, et les faire au-delà des critiques et des prises de parole, mais dans des actions, des combats quotidiens. Merci.
Ouais, je voulais juste dire un truc quand même, ça fait bizarre, enfin je suis désolé mais ça fait bizarre, si vous avez organisé les choses, etc., les gens qui ont lutté à Montreuil, ils n'ont pas été invités spontanément, ça veut dire que quand même on doit demander la parole, que ça soit les Roms d'ici, ça veut dire qu'eux ils dorment ici, etc., c'est des gens de l'extérieur qui sont venus demander la parole à la tribune pour qu'elle puisse s'exprimer, ou que ça soit nous, des gens qui ont lutté ici, etc., qui ont lutté notamment pour qu'ils ne dorment pas dans la rue quand même, etc. Donc ça, juste ça serait quand même bien parce que là, dans la salle, il y a une partie, normalement, où c'est là où les gens, ils dorment, quoi. Et voilà, il faut quand même s'en souvenir, et il faut notamment savoir, aussi, les gens, bah, ça serait bien qu'on, par exemple, si c'est organisé, d'essayer qu'il y ait une traduction, par exemple, en Rom, ça aurait été bien. Voilà. Bon, c'est des petits trucs. Après, moi, ce que je veux dire aussi, c'est sur un truc général, si les gens, il y a des gens qui ont lutté pour les familles qui sont ici, etc., c'est pas parce que Sarkozy l'est passé à la télévision, etc., etc., parce que les trucs, ça fait 10 ans que c'est ça. Ça fait 10 ans qu'il y a des expulsions, ça fait 10 ans. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des expulsions? Pourquoi on a bougé avec eux? Parce qu'ils étaient à la rue. Ils ont été mis à la rue en novembre dernier, pas de cette année-là, mais l'année d'avant, ils ont été mis à la rue. Pourquoi? Parce qu'il y avait le Salon du Livre de la Jeunesse qui s'est fait à Montreuil et ça ne faisait pas bien qu'il y ait un bidonville à côté. Et donc, ils ont été expulsés à la fois par la préfecture et par la mairie. Ça, il faut le savoir déjà. Donc ça, c'est important quand même. Et les gens, ils ont été mis à la rue. Et voilà, il y a un certain nombre de gens, ça fait des années quand même qu'ils sont dans la ville. Ils galèrent pour se loger, etc. Donc ils se bougent. Et quand il y a des gens qui sont à la rue, ils essaient de s'entraider pour essayer de trouver des solutions, pas dormir dans la rue, surtout quand c'est novembre, surtout quand il y a des enfants. Et franchement, ils ont galéré dans plein d'endroits, etc. Et c'est des gens qui ont dû les aider à ouvrir une maison qui n'avait même pas de toit. Il a fallu bâcher le toit, etc. Et on a vu pas grand monde à ce moment-là, et certainement pas la mairie. Et franchement, c'était dur, et c'était vraiment les moments d'hiver, quoi. Donc il ne faut pas se réveiller simplement au moment où Sarkozy fait une opération à la télé, parce que les gens, ils sont expulsés aussi par des mairies socialistes, ils sont expulsés, que ça soit à Lille, que ça soit à Nantes, que ça soit à Dijon, que ça soit ici à Montreuil, que ça soit à Saint-Denis, il y a des expulsions tous les jours de campements Roms ou pas Roms, et qui sont faites aussi par des municipalités, en plus sur des friches. Par exemple, là, ils ont été expulsés, il y a des Bulgares, Roms bulgares, qui ont été expulsés de l'autoroute, et il n'y a personne qui a bougé pour eux. Ça, ils n'existent plus. Ils n'existent plus. Pourquoi? Parce que les terrains de l'autoroute, en ce moment, il y a un projet qui s'appelle l'écoquartier qui va se faire dessus, tatata, donc il faut que ça se passe bien. Bon, voilà. Là, il y a aussi... Pour nous, c'est une question de logement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont bougé pour qu'ils soient là, etc. C'est que personne... Comment on fait pour vivre dans la rue? Comment on se débrouille ensuite? Ensuite, on se fait stigmatiser, tout ça, etc. Mais si on n'a même pas de quoi s'organiser, les gens, ils essaient de construire leur maison, ils essaient de et systématiquement, ça devient détruit, etc. Comment on fait pour vivre déjà quand on n'arrive pas à avoir simplement un toit alors qu'il y a je ne sais pas combien de maisons vides, il y a plein de terrains qui sont en friche, etc., comme si ça représentait une attaque. Alors, ce n'est pas simplement symbolique, il y a les attaques symboliques de Sarkozy, mais il y a les attaques matérielles qui sont de gauche ou de droite pour empêcher aux pauvres d'avoir une place dans les villes. Et ça, on le vit tous. Ça, c'est une réalité, on le vit tous, et on le vit aussi bien à Montreuil, dans des villes socialistes, communistes, que dans des villes de droite, on le vit tous. Les gens qui sont pauvres, eh ben, tout est fait pour qu'ils aient pas de place dans la ville, tout est fait pour cleaner, etc. Et il y a très peu de... On dit, ouais, bon, bah, ah, vous auriez dû vous insérer dans tel mécanisme, etc., pour vous recaser, tout ça, etc. Voilà. Et c'est surtout pour insister, parce que là, depuis 3 jours, par exemple, il y a des copains, ils ont été mis à la rue... juste à côté du foyer Roche-Brune, c'est une expulsion qui s'est passée il y a 4 jours, parce que ici, comme ailleurs, il y a de la promotion, il y a de la spéculation immobilière, et du coup, il y a un campement, pareil, un nouveau campement de rue qui se trouve à quoi, 5 minutes d'ici, rue Baudin, au 22 rue Baudin, et voilà, c'est 15 potes qui ont été mis, pareil, ils ont été expulsés de leur squat, ils se retrouvent à la rue, ils n'ont pas d'endroit où aller, donc voilà, bah, on est obligé d'avoir des tentes dans la rue, de voir... comment on va se débrouiller. Et c'est pareil, hein, c'est pas la mairie aussi qui se presse à la porte ou les gens de gauche forcément qui se prêtent pour bouger, quoi. Ça veut dire tout le monde dit ah bah tant mieux qu'ils dégagent, quoi, à la limite s'ils sont là. Donc voilà, c'est un appel, parce qu'il doit y avoir quand même de la bonne volonté aussi dans toutes les personnes qui sont ici, et donc ça c'est intéressant, mais pour que ça soit concret, ça veut dire là où pas attendre que ça passe à la télévision, pas attendre que tout ça, etc., pour se manifester. Mais on le vit ici, il y a plein de familles qui se retrouvent dans la rue, il y a plein de gens, même isolés, etc., qui se retrouvent régulièrement. Donc voilà, si vous pouvez passer à Baudin, si vous pouvez rue Baudin, donc à côté, sur la direction du foyer Roche-Brune, si vous pouvez manifester votre solidarité par rapport à tous les gens-là, c'est une question, avant que ça soit une question de savoir si on est blanc, jaune, noir, rome, tout ça, c'est aussi simplement une question d'être humain, nous, voilà, même si des fois on n'arrive pas à se comprendre avec les roms, avec des signes, on arrive à se comprendre et on a appris des mots chacun, maintenant on sait dire Bartalo, on sait dire plein de trucs, voilà, c'est des communications entre nous, quoi, quelle que soit la on ne va pas ethniciser les problèmes, quoi, on est dans la merde et tous, il faut qu'on se bouge par rapport à ça.
Alors, je voudrais juste dire 2-3 mots et te répondre, puisque tu nous interpelles. Cette manifestation, justement, elle est faite pour ça, pour que la parole, vous la preniez. Nous, on a invité un certain nombre de personnes. On a organisé cet événement en une semaine avec Cécile et Thomas. Ça veut dire qu'en une semaine, tout le monde est capable d'organiser un tel événement. Vous êtes nombreux. Mais il faut le refaire, il faut effectivement être aussi ailleurs. Mais si on est là, c'est qu'on est beaucoup à être ailleurs aussi. Alors certes, vous ne nous connaissez pas. Si à 14h, je ne sais pas si vous étiez là, il y a d'autres personnes de l'hôtel derrière. Bon, là, c'est moi qui les connais bien et qui sont venues parler aussi. Et je suis arrivée ce matin à 10h pour parler aux familles roms en me disant il faut que d'abord elles parlent. Il se trouve qu'il y avait ce problème de traduction, parce que je ne pouvais pas traduire le roumain. Mais vous l'avez fait et c'est l'essentiel. Et la parole, elle se prend. Et on est là pour ça. Quand on organise un événement en une semaine, effectivement, nous, on a contacté la mairie, on a contacté, évidemment, d'abord ce lieu. Et après, à vous de venir et de l'apprendre. Donc, je vous remercie. Et on continue le programme. Et après, on a toute la soirée pour continuer à discuter. Donc, il n'y a aucun souci.
Voilà, donc on va maintenant entendre les intervenants, enfin certains des intervenants et une partie de leurs interventions à cette table ronde, donc cette dernière table ronde lors de l'après-midi, les Roms et qui d'autres, donc cette initiative de prise de parole face à aux événements récents qui ont concerné les Roms en termes de... de stigmatisation et de discrimination concrète. On va tout de suite entendre Jean-Loup Hamsel, qui est anthropologue.
Merci donc pour cette invitation cet après-midi. Et merci à Cécile K et à Cécile C et à Thomas Lacoste pour l'invitation à cet après-midi de protestation contre la politique sécuritaire et xénophobe de l'État français. C'est vrai qu'on commence à avoir peur en France. En tout cas, moi, je commence à avoir peur. et qu'on a envie, en tout cas j'ai envie de plus en plus de quitter ce pays où je trouve que ça pue et que ça pue de plus en plus. Mais pour aller où ? Mais pour aller où ? Daniel Dechacq disait à l'instant, c'est le cas dans toute l'Europe, enfin cette politique sécuritaire et xénophobe sont mises en œuvre dans toute l'Europe, et donc on ne sait pas vraiment où aller. Alors, il est tard, donc je serai assez bref. Beaucoup de choses ont été dites et bien dites, d'autres moins, ou en tout cas avec lesquelles j'exprimerai certaines réserves. Je voudrais simplement livrer ici quelques petites réflexions d'un anthropologue qui s'est beaucoup penché sur les questions d'identité, d'ethnicité, d'hybridité, de métissage, etc., et qui s'est efforcé de les déconstruire. Alors, je ne sais pas si je pourrais répondre à la question de cette table ronde, de cette troisième table ronde, face à la dérive politique actuelle, qu'est l'engagement ? Bon, je ne suis pas sûr d'avoir des réponses totalement satisfaisantes ou à apporter, mais enfin, j'essaierai de livrer quelques idées. Alors, les Roms et qui d'autres ? Un racisme d'État. Et évidemment, ce titre, on l'a déjà dit, ça évoque les Juifs, Vichy, les rafles, etc. Et il faut quand même noter que ce rapprochement entre Vichy et la période actuelle a été contesté par certains historiens. Je pense notamment à Annette Vievurka de la Ligue des droits de l'homme, qui, dans une interview à Rue 89, s'est élevée contre la notion de racisme d'État et au rapprochement qui est effectué depuis quelque temps déjà entre la période de Vichy et la période actuelle. Est-on véritablement entré dans un processus, ou est-on véritablement dans un processus de fascisation analogue à celui des années 30? C'est toute la question. Je pense que c'est une question indécidable dans laquelle je ne m'engagerai pas. Je crois qu'en revanche, ma contribution pourrait consister à dire que je crois qu'il faut replacer la question de la stigmatisation des Roms et des gens du voyage, on reviendra sur ces notions, dans le cadre de ce que j'appellerais le processus d'ethnicisation de la société française, qui est un processus complexe, contradictoire, et je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que je vais dire, et moi-même je ne suis pas d'accord avec certaines des choses qui ont été dites précédemment. Processus qui est considéré comme maléfique, à juste titre, lorsqu'il vient d'en haut, de l'État, et donc c'est tout le problème du racisme d'État, mais qui est considéré comme positif, oui, lorsque c'est un raciste qui vient d'en haut, il est considéré comme raciste, précisément, mais ce processus est considéré comme positif lorsqu'il vient d'en bas, ou qu'il est censé en venir, et je pense en particulier à toute la question là, qui est très importante, qui a été abordé en filigrane dans certaines des interventions précédentes, la question des entrepreneurs d'ethnicité. Pensons par exemple au CRAN, au Comité représentatif des associations noires de France, où on voit comment le CRAN, qui a une stratégie très habile, a réussi à élargir la question des Antillais, du pourcentage des Antillais représentés dans les médias à celui des Noirs, ce qui permet, les Antillais étaient bien représentés, mais les Noirs évidemment l'étaient beaucoup moins. Et donc, je crois que toute cette question peut se résumer sous la notion d'essentialisme stratégique, tel qu'il a été énoncé par Gayatri Spivak. Et cette question de l'essentialisme stratégique est une question difficile, parce que je crois que l'antiracisme ne se divise pas, qu'il y a également une stigmatisation positive, qui résulte du retournement du stigmate opéré par les acteurs sociaux qui revendiquent donc des identités essentialisées, mais que dans ce retournement du stigmate, il subsiste toujours quelque chose de ce qui a été refoulé. Et c'est tout le problème justement de la question des Roms, de ce vocable passe-partout, qui peut être réuni en un seul mot, et qui peut englober des populations, des groupes. Je renvoie ici à la communication, à l'intervention de Patrick Williams, qui montre que, en fait, il y a des groupes très différents, les Tziganes, les Roms, les Manouches, les Sinti, etc., etc. Et donc, je crois que dans la foulée, je crois que la question qui est importante, c'est celle du multiculturalisme. Je crois que le multiculturalisme n'est pas l'antidote absolu à toutes les formes de racisme, qu'il soit d'État ou pas, et que nous avons des exemples de pays multiculturalistes en Europe, comme la Hollande, où le racisme est aussi développé qu'en France, pays républicain, laïque, etc. Et également lié à cette question est celle des identités. On a parlé d'identité hybride tout à l'heure. Je crois que cette question des identités hybrides et du métissage est également problématique, car derrière cette question des identités hybrides ou du métissage, en fait, cela renvoie, en dernière analyse, à l'existence d'identités pures. On a dénoncé, à juste titre, l'amalgame opéré par Sarkozy et Hortefeux entre les Roms et les gens du voyage. Et je renvoie notamment à son discours sur les statistiques de la criminalité roumaine et de sa progression qui a été fournie par Hortefeux avec ce savant mélange et ce savant amalgame entre les Roms et les Roumains. Je crois que donc il est nécessaire de déconstruire premièrement l'amalgame Roms, Roumains, gens du voyage, tziganes, gitans, yéniches, sinti, etc. Toutes ces catégories en fait, qui sont multiples, diverses, la ville changeante, car deuxièmement, les notions sous-jacentes, il est urgent de déconstruire ces notions sous-jacentes, car le racisme se nourrit précisément, dans ce cas comme dans d'autres, de l'amalgame, notamment l'amalgame entre musulmans, arabes, maghrébins et beurs, par exemple, et de la confusion ou de la stéréotypisation ethnique accolée à des groupes mouvants, labiles. Par exemple, les Roms de Roumanie ne se définissent pas comme Roms, comme l'a rappelé Cécile Canu, et pas seulement parce qu'ils sont nomades ou supposés tels. Le stéréotype est d'ailleurs fortement associé au nomadisme, dans le cas des Roms, comme autrefois dans le cas des Juifs, et je renvoie à toute la thématique du Juif errant, sans feu ni lieu, etc., etc. Là encore, on sait que nombre de ceux qui sont considérés comme gens du voyage sont sédentarisés de buis belle lurette ou ont toujours été sédentaires. Et donc, on peut, d'une certaine façon, établir une comparaison entre le carnet de circulation, le fameux carnet de circulation, qui est un vestige de Vichy, et l'étoile jaune. Le racisme d'État est donc un processus d'exclusion de certaines catégories, groupes ethniques, qu'il constitue pour les besoins de la cause. Et ce qui est frappant dans le cas de l'État sarkozyste, c'est que d'une part, il promeut ou a promu de ce qu'on appelle, avec une expression très, que je déteste, les, entre guillemets, les issues de la diversité, Rabaïad, Fadela Amara, Rachida Dati, les issues de la diversité, qui est un autre euphémisme pour désigner les blacks et les beurs, et donc l'État sarkozyste ethnicise le pays, et d'autre part, il exclut. Il ethnicise positivement, et d'autre part, il exclut. Donc le discours d'exclusion anti-Rome et les expulsions qui lui sont liées font partie, à mon sens, d'une stratégie de division, de fragmentation du corps social qui s'inscrit dans une longue chaîne sémantique et symbolique de séquences, hein, c'est le terme qui est utilisé par les spin doctors ou les conseillers en communication de l'Élysée. Donc nous avons eu une séquence, nous avons eu droit d'abord à une séquence statistique ethnique à laquelle nous avons mis fin grâce à la mise sur pied du mouvement de la CARCED, hein, la commission contre les statistiques ethniques, qui a donné lieu à la publication de ce livre « Le retour de la race contre les statistiques ethniques ». Et ensuite, nous avons eu une deuxième séquence, « Identité nationale », avec le discours de Sarkozy à la chapelle en Vercors, puis une séquence burqa, dont on a parlé précédemment, séquence burqa qui est liée à la séquence identité nationale, et enfin une séquence, la dernière séquence dans laquelle nous sommes pleinement plongés actuellement, c'est la séquence, Rome, Jean du voyage. Donc il s'agit d'une storytelling, hein, d'une narrativité, d'inspiration barésienne et maurassienne. Je rappelle que Henri Guénaud, la plume préférée de Sarkozy, se revendique ouvertement de Maurice Barrès. Donc c'est d'une séquence, il s'agit d'une storytelling d'inspiration barésienne et maurassienne, quasiment ininterrompue, qui vise à scander un récit d'exclusion xénophobe axé sur la haine de l'étranger, l'amalgame Rome, nomade, gens du voyage, représentant la quintessence de l'étranger. Ceci afin d'extraire du corps national la part saine, les Français dits de souche. Donc il s'agit de dresser les Français les uns contre les autres, les vrais Français contre les autres, les Français de naissance contre les Français d'acquisition, qui eux risquent d'être déchus de leur nationalité. Donc on assiste à une précarisation de la nationalité, une insécurité citoyenne. La citoyenneté devient un statut précaire qui peut à chaque instant être remis en cause ou à tout le moins faire l'objet d'une suspicion. Donc nous sommes tous, je terminerai là-dessus, nous sommes tous des citoyens en sursis. C'est
Voilà, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, dans les oreilles loin du front. Et on va donc poursuivre cette série d'interventions qu'on a enregistrées à Montreuil le samedi 11 septembre dernier. Un rassemblement de prise de parole contre le racisme d'État qui s'intitulait Les Roms et qui d'autres. Et là, on va tout de suite entendre l'intervention de Luc Boltanski, qui est sociologue.
durant l'été a été déclenchée à l'encontre de personnes étiquetées et désignées à la vindicte publique sous le nom de Rome, l'offensive de propagande politique et d'action policière, sans doute la plus cynique et la plus abjecte que ce pays ait connue depuis la fin de la guerre d'Algérie, il y a 50 ans. Il faut en effet remonter jusqu'à cette époque pour voir un gouvernement prendre officiellement des mesures discriminatoires et racistes à l'encontre d'une population présente sur le territoire. Comme c'est le plus souvent le cas, chaque fois qu'un collectif est stigmatisé et mis dans la position de bouc émissaire, il n'était pas nécessaire, pour faire exister une soi-disant question rome, de préciser quelles étaient les personnes auxquelles le nom de Rome pouvait être accolé. Le nom de Rome peut et même doit demeurer, comme ça a été abondamment illustré au cours de cet après-midi, un désignateur flou. Les mesures consistant à déclencher et à banaliser des pratiques d'exclusion et d'éradication s'embarrassent rarement de critères. Il convient en effet de laisser ouverte la possibilité de modifier les contours de la population incriminée de façon à pouvoir l'étendre de proche en proche. Nombreux sont donc ceux qui peuvent se sentir visés et entendre sous le nom de Rome résonner d'autres noms par lesquels on les désigne en haut lieu et d'ailleurs aussi dans une grande partie de l'espace médiatique. Sans-papiers, arabes, noirs, issus de l'immigration, habitants des quartiers sensibles, délinquants, marginaux, membres des supposées mouvances autonomes, etc. L'attaque contre les Roms vise donc aussi à leur faire peur. La répression doit suivre son cours. Pourquoi avoir pris la décision de rendre manifeste ce tournant répressif en s'en prenant particulièrement aux Roms? On peut proposer parmi d'autres deux raisons principales. La première est que cette minorité, ayant été de longue date stigmatisée, il a semblé facile de réactiver les peurs et les haines dont elle a fait l'objet dans le passé. Qui, a priori, va se sentir vraiment concerné par le sort des Roms? Si ce n'est cette autre minorité identifiée par la clique au pouvoir comme étant les intellectuels de gauche. C'est précisément parce que le sort des Roms n'importe pas, parce que les Roms ne constituent en rien un enjeu réel des luttes politiques, à la différence par exemple du bouclier fiscal, qu'ils ont paru constituer des victimes de choix. Mais il existe encore au fondement de cette offensive une autre logique, plus inquiétante encore, qui est celle du blasphème. Le blasphème politique consiste à braver des interdits moraux en tenant haut et fort un discours de haine qui est généralement censuré et non dit. Cette stratégie discursive a toujours été celle de l'extrême droite. Adoptée par le pouvoir, elle a un double objectif. Le premier est de lever la censure en légitimant ce discours de haine. Le second est précisément de provoquer la conscience morale de ceux qu'indignent ces discours de haine, de les choquer, de les révolter, de les obliger à réagir, de façon à durcir la frontière entre les idéalistes présentés comme irresponsables et les vrais responsables, réalistes et courageux, censés parler et agir au bénéfice de la majorité silencieuse. Il n'était pas nécessaire de faire preuve d'une lucidité exceptionnelle pour saisir l'objectif politique immédiat de cette manœuvre. Faire passer au second plan, et si possible effacer des médias, des discussions et surtout des esprits, l'impression, d'autant plus ravageuse qu'elle était franchement comique, suscitée par l'affaire Woerth-Bettencourt. Chacun, ou disons chacun d'entre nous, a donc pu à cette occasion jouir de sa propre clairvoyance. Le problème est que la sophistication et l'efficacité des techniques de propagande se sont au cours des dernières décennies largement accrues. Cela de façon à répondre à l'élévation du niveau de la conscience critique présente dans notre société, due sans doute pour une part à l'élévation du niveau scolaire et plus récemment à la libération de la parole rendue possible par Internet. Comme l'a bien montré Christian Salmon dans son livre Storytelling, que mon voisin vient de citer, ces nouvelles techniques de propagande politique sont nées dans les disciplines du management des entreprises, puis importées dans l'État, de plus en plus nettement ajustées au modèle de l'entreprise. Pour dire vite, les anciennes formes de propagande étaient destinées aux masses et avaient pour objectif d'empêcher tout débat en martelant toujours les mêmes mots et les mêmes thèmes. Ces formes anciennes de propagande n'ont certes pas disparu. Mais une perspective nouvelle s'est aussi dégagée. Elle part du principe que, dans la mesure où il est très difficile aujourd'hui d'empêcher tout débat et de traiter une société d'individus comme une masse uniforme, l'essentiel est de s'emparer du débat et de saturer l'espace de débat. L'objectif n'est donc pas de supprimer la discussion, comme dans les vieilles formes de totalitarisme, mais de substituer un thème de discussion à un autre, étant entendu que l'espace de discussion est limité. Cela est évident pour ce qui est de l'espace médiatique, mais cela vaut aussi pour l'espace de temps que chacun d'entre nous peut consacrer à la réflexion et à la discussion, et aussi, plus profondément, pour ce qui en est de notre attention elle-même. Comme l'a montré Richard Laham dans un ouvrage novateur, The Economics of Attention, publicitaires, responsables de communication et spin doctors ont compris que dans une société de l'information, l'attention de chacun d'entre nous était la denrée rare dont il convenait de s'emparer pour accumuler des profits économiques ou politiques. Que nous soyons satisfaits ou indignés, au fond, pour cette forme de propagande, peu importe. Du moment que notre attention se trouve occupée par une certaine question, au détriment d'autres qu'il s'agit de tenter d'occulter. Et peu importe également, bien sûr, les ravages humains impliqués par la question mise au premier plan. Aujourd'hui, la dite question Rome. Demain, d'autres questions similaires dont je vous laisse imaginer la teneur. Ce sont les dommages collatéraux d'une propagande efficace. Cette nouvelle forme de propagande qui a assimilé les techniques de la provocation vise aussi à prendre la critique en tenaille. Qu'elle se taise, et alors il est facile de dire que les mesures adoptées ne rencontrent pas d'opposition. Qu'elle s'exprime, et alors elle contribue sans le vouloir à étendre la place prise par la question écran dans l'espace médiatique. Desserrer cette tenaille exige sans doute l'invention de nouvelles formes critiques tenant compte des conditions de la lutte politique dans une société du spectacle. Je ne voudrais pas terminer cette prise de parole sans dire ma sympathie pour ceux qui se trouvent aujourd'hui désignés à la vindicte publique et dans nombre de pays d'Europe discriminés et persécutés, les Roms. Parmi ceux qui s'expriment ici, d'autres que moi, savent mieux que je ne pourrais le faire mettre l'accent sur les dimensions positives associées au terme de Rome, sur la culture rome, la musique rome, la poésie rome. Je me contenterai d'exprimer ma sympathie en rappelant ce que les Roms n'ont pas. Ils n'ont pas de bombe atomique. Ils n'ont pas de police ni de service secret. Ils n'ont pas d'officine de propagande. Il n'existe pas de Romeland enfermé dans ses frontières, ni de garde-frontières Rome. Il ne s'identifie ni à une religion déterminée, ni à une idéologie, ni à une histoire glorieuse reconstruite après coup. Les Roms sont ceux vers quoi nous voulons tendre, et, j'ose encore l'espérer, notre avenir.
C'était la fête, et comme à la maison, dans le parking, toutes les familles à raison. De trois filles et de 18 garçons sont descendus, il y avait des chaises de toutes façons. Il y avait du thé, mais il y avait surtout des macroutes. Il y avait surtout rien à raquer, tu t'en doutes. Dès qu'on aurait dit là, tu les assistes. Et rien à foutre, et allez, place à l'artiste. Tout à coup, le manouche est monté sur la scène. Ici, pas de cachet, pas plus de mécène. Et c'est en ramenant ses cheveux en arrière qu'il s'est mis à manger toute la scène entière. Il nous a pas fait lâcher, tout ça à la tchatche. Il nous a fait le match et nous a dit la yachi.
À quel plaisir!
Il y avait là tous les prénoms qui finissent en id. Et l'armada de ceux qui avaient pas lu le cid. Toute la faune qui taquine le tiercé. Et des millions de landos qu'il fallait verser. Il y avait aussi des chiens qui mangeaient plus de viande, mais des restes de ragoût presque à leur demande. Il a pris sa guitare et l'allure trop fière. Je vous dis pas ce qu'il a fait de nos ornières. Il a fait comme un pansement sur la misère et sur le mal de crâne de l'Alka-Seltzer. Comme les larmes sont jamais trop loin du rire, il a mis au rez-de-chaussée quelques sourires. Il nous a pas fait la tchè, tout ça la tchatchi. Il nous a fait le match et nous a dit la yachi. C'était une épée qui n'avait pas une voix, qui disait de l'or pour ceux qui n'en ont pas. C'était pas une guitare au bout de ses doigts, mais une méchante potence pour les rois. Il a dit aux mômes, je vous fais une place, vous serez tous premiers de la classe. Puis ce sera pas des classes mais des salons, et sur ma tête y aura pas un crayon. À ces mots les mômes ont lâché les ballons, les plus petits qui étaient accrochés aux jupons. On dit oui quand il a dit la première leçon sera comment on fait cuire les hérissons. Il nous a pas fait la tché, tout ça la tchatche. Il nous a fait le match, il nous a dit la yachi. Il nous a fait l'océan là sous notre nez. Je vous le jure, c'était pas du poisson pané. Et sur la plage, comme si on y était, il a effacé les 300 jours de l'année. Et dans un confort qu'on n'aurait pas osé, mieux qu'un fauteuil de la lignée rosée. Avec un français à couper à la hache, il a dit libertad est un mensonge, il faut qu'on le sache. Je peux te dire que depuis ce jour on raconte que la misère et même le jour on lui honte d'avoir jeté des singes dans les cages. On a oublié qu'on habitait les étages. Il nous a pas fait la tché, tout ça la tchatche. Il nous a fait le match, il nous a dit la yachi. Il nous a pas fait la tché, tout ça la tchatche. Il nous a fait le match, il nous a dit la yachi.
Voilà, on est toujours dans les oreilles loin du front sur Fréquence Paris Pluriel et on aimerait un peu s'excuser parce que Aude, qui est aux manettes, a un petit peu cafouillé tout à l'heure, mais c'est parce qu'elle revient de Bamako, elle est complètement déphasée, elle a oublié comment ça marche. Donc, on repart pour un dernier extrait d'intervention de cet après-midi qui s'appelait Les Roms et qui d'autre, pour cette table ronde face à la dérive politique actuelle. Quel engagement ? Et on va entendre maintenant Isabelle Saint-Saëns, qui a été donc présentée comme membre du comité de rédaction de la revue Vacarme. Elle va un petit peu préciser les choses sur son intervention.
Juste pour dire, comme Sophie Vaniche, que je suis membre et très contente de l'être du comité de rédaction de la revue Vacarme, mais que ça n'est pas en ce nom, enfin, que je vais essayer de, non pas de répondre, mais de donner quelques pistes de ce qui, moi, m'a semblé intéressant, à la fois dans ce qui a été rappelé par la revue, mais dans d'autres, des choses qu'ont fait d'autres associations ou réseaux dont certains se sont exprimés ici, comme Logistie ou Migre Europe, ou ailleurs. Mais bon, j'essaierai d'éviter aussi, en 10 minutes, l'effet catalogue, j'espère que j'arriverai à l'éviter, l'effet catalogue qui se terminerait obligatoirement par tout et dans tout, ou donner des leçons, ou satisfecit ou mauvais point. Enfin bon. Bon, il me semble que ce qui est actuellement nécessaire, mais et ce peut-être qu'on peut essayer de voir de ce qui s'est passé, ne serait-ce que les 10 ou 15 dernières années, c'est d'essayer, pour être plus efficace, de créer des rassemblements, d'essayer de trouver des modes d'intervention, des modes d'archivage et de circulation des idées, des modes de discussion, des alternatives à cette vie politique, entre guillemets, que nous présentent les partis, les gouvernements et les médias, en se nourrissant des conflits internes et des conflits entre les gens que ça rassemble, sans s'imaginer qu'il faut atteindre un consensus. En 1992, dans un texte publié dans Libération sur les lois Pasqua et qui s'appelle « L'immigré ou la loi du consensus », Jacques Rancière écrivait que consentir, c'est s'entendre ensemble sur ce qu'on ne peut pas sentir. Je pense que c'est une bonne description de ce qu'il a développé ensuite dans ses ouvrages ultérieurs. Un peu plus tard, et pas au même niveau, mais en 1998, dans la deuxième mouture de Vacarme, qui a connu plusieurs vies et qui, j'espère, en connaîtra beaucoup, un texte qui était un peu notre texte programmatique à l'époque, écrit par Mathieu Botte-Bonneville, s'intitulait « Faire du vacarme ensemble ». Ça veut dire faire entendre le dissensus,
faire le plus de bruit possible aussi en se faisant l'écho de ce qui se passe et aussi des débats dans le mouvement et les mouvements au sens large. Pour ça, je pense qu'il y a une première chose qui est absolument nécessaire et qu'on sent bien au travers des deux interventions qui ont précédé cette table ronde, c'est qu'il faut absolument respecter et considérer, enfin avoir, prendre en compte l'autonomie des Roms, des sans-papiers, etc., pour ne pas les considérer comme des masses indifférenciées, comme disent Edward Said ou Étienne Balibar, des gens, des hordes qui seraient uniquement redevables d'une aide humanitaire immédiate, mais des gens qui sont les sujets de leur destin, qui vivent comme les Roms dans, entre plusieurs pays, qui décident de partir comme les migrants, d'un choix qui n'est pas toujours fait dans la joie, mais et des gens qui décident de partir et de lutter aussi. C'est-à-dire qu'il faut les considérer comme les auteurs de leur propre destin, ne pas les considérer non plus comme des victimes. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans ces cas-là ? On peut, par exemple, pour prendre un exemple alors assez ancien, c'est l'exemple de 75 de la lutte des foyers Sonacotra. Les gens juristes, architectes, médecins, comptables, sociologues qui sont venus apporter leur aide se sont considérés comme des logisticiens. L'un d'entre eux, Patrick Moni, qui est venu ensuite au Gisti, a eu cette belle expression qu'on peut réutiliser, qui est dit « c'est le droit au service des luttes ». C'est-à-dire que c'est eux qui parlent et on peut les aider à parler, on peut leur donner les moyens de parler, que leurs paroles soient entendues, on peut leur donner les moyens d'archiver, mais il ne s'agit pas de parler en leur nom. C'est ce qui a fait, par exemple, qu'en 1996, Marc Chemillier a monté un site web où il a mis les communiqués du collectif qui, à l'époque, occupait l'église Saint-Bernard. Et ensuite, d'autres collectifs sont venus et ont mis sur ce site d'autres leurs propres communiqués. Mais on peut donner les moyens justement de ce que cette parole soit entendue. C'est aussi ce que fait, enfin, je pense que je vais m'arrêter là. Ce qu'il faut faire aussi, c'est ce que rappelaient les copains qui se sont exprimés avant, c'est travailler au local. Travailler au local, sur la situation locale et comment ça pose la question, comme il le rappelait, de comment faire avec des partis politiques qui ont une position nationale et qui ont des pratiques différentes au niveau local. Des partis qu'on voit manifester samedi dernier, par exemple, et qui, sur le terrain, ont des pratiques différentes. Et ça fait longtemps que ça dure, le bulldozer de Vitry en 80, enfin bon, d'autres choses, ou ici même, les expulsions du foyer Nouvelle-France en 96. Le local, en plus, ça a l'avantage de pouvoir permettre plus facilement aux gens, enfin, me semble-t-il, de parler en leur nom propre. Parler, comme on dit dans une autre association à laquelle j'appartiens, qui est ACT UP Paris, parler, faire de la politique à la première personne. Et c'est pour ça, entre autres, que ACT UP a suivi avec tellement d'enthousiasme, enfin, en tout cas, écouté avec tellement d'enthousiasme, deux mouvements qui sont celui du réseau Éducation sans frontières et celui des amoureux au banc public, parce que des gens qui faisaient partie de minorités invisibilisées, de groupes invisibilisés, poursuivis et stigmatisés, tout d'un coup se levaient en disant « moi, je suis le père d'eux, moi, je suis le petit machin, et moi, j'ai une fiancée tchétchène qu'on vient de réexpulser, etc. » Et c'est quelque chose qui, nous, à ACT UP, mais je pense plus largement dans les mouvements, ne peut que nous plaire et qu'on ne peut qu'écouter. Et je pense que c'est cette parole-là qui frappe les gens. Et ensuite, on peut dire RESF, y a de tout à RESF, mais à partir d'entendre cette parole-là, je pense que les gens peuvent continuer à aller justement au-delà de l'image de la victime ou de l'image héroïque. Au local, je pense que si on peut suivre l'exemple de nos amis espagnols, qui font des choses tout à fait extraordinaires, en réunissant localement des activistes de tout poil, des syndicats, des associations, des citoyens et citoyennes, sur différentes thématiques, sur les thématiques du travail, du care, des sex workers, des droits des migrants, du droit au logement. Enfin, il y a quelques mouvements assez extraordinaires en Espagne là-dessus et qui, pour l'instant, existent encore. Par exemple, les précarias à la dérive à Madrid. C'était des gens aussi qui avaient organisé un mois après la mort de au moins 15 migrants à Ceuta. En un mois, on réussit à organiser une manifestation de 500 personnes sur un texte suffisamment large pour être signé par plusieurs associations de types divers, mais sur des principes suffisamment fermes pour ne pas laisser justement libre cours à des principes humanitaires. Et 500 personnes se sont déplacées à Ceuta et ont pu discuter, entre autres, avec les migrants du centre de Ceuta, puisque c'est un centre semi-ouvert, donc qui sortait, on a pu discuter avec eux. Au local, on pourra aussi discuter, justement, ça peut permettre l'articulation entre des questions, les conditions des populations, et là, on en peut en revenir. Justement, l'exemple des Roms, des conditions de logement, des conditions d'éducation, des conditions acceptables, et en plus, mêler ça avec des réflexions plus politiques. C'est aussi, par exemple, ce qui se fait dans, je crois que Claire en a parlé, dans les jungles du Pas-de-Calais, où un certain nombre d'associations, elles aussi très hétéroclites, travaillent avec ces migrants qui veulent passer de moins en moins en Angleterre, mais maintenant de plus en plus vers les pays du Nord, pour à la fois leur donner les moyens, eux, de raconter leur histoire, hein, qui peut être, comme le disait Gérard Noyelle, une belle histoire, c'est ça qu'il faut raconter, et que ce soit eux qui la racontent, et on peut aussi leur donner les moyens de le faire, mais qu'il y ait aussi une réflexion politique sur qu'est-ce que c'est que la liberté de circulation, etc. Très rapidement, ce qui est important aussi, il y a le local, il y a le transversal. C'est ce qui a permis au GISTI de dire, Claire Rodier, dans un article qu'elle avait publié à l'époque, toujours dans Vacarme, qui disait qu'on ne pouvait pas lutter pour les droits des étrangers sans s'intéresser aux conditions qui les font vivre dans la précarité, et en particulier à l'épidémie de sida. C'est ACT UP en 97, dans un texte magnifique qui s'appelle « Évidemment, nous en sommes », qui rejoint les modalités d'occupation des ANPE, parce qu'ils n'étaient alors que assez, et qui amènera plus tard aux interrogations de la coordination des intermittents et précaires. Ce qu'il faut aussi, donc très vite, hein, il faut aussi connaître et faire connaître l'histoire de ça. Le copain qui parlait avant parlait de ce qui s'était passé il y a quelques années ici. À Béziers, en 2007, il y a eu la même chose, un camp absolument saccagé, et des gens et des associations qui ont occupé le Conseil général, qui ont fait des référés au tribunal administratif. Bon, je veux dire, ces histoires, on l'oublie. Les gens qui étaient à Saint-Bernard en 95 ne savaient pas obligatoirement ce qui s'était passé au moment des Sonacotras. Il faut aussi faire des archives, c'est ce que font des gens comme Mognis Abdallah à l'agence Immédia. C'est ce qu'on fait dans les revues à Vacarme, à Multitude, avec aussi des textes savants qui peuvent interroger cette archive, ce que fait aussi la revue internationale des livres et des idées. Est-ce qu'on se souvient quand même par rapport aux Roms que là, bon, gouvernement raciste, racisme d'État, je suis d'accord avec Jacques Ancière là-dessus, protestation du Parlement européen, protestation voire du Pape, voire du Conseil de l'Europe. En 2008, Maroni, ministre de l'Intérieur, membre de la Ligue du Nord, impose le fichage avec relevé des empreintes digitales de tous les Roms vivant dans les camps illégaux. Il y renonce sous la pression du Parlement européen, mais la Commission européenne estime que ce recensement n'est pas contraire aux règles de l'UE. Est-ce qu'on se souvient de ça ? Je veux dire, c'est pratiquement exact. Enfin, tant mieux si on s'en souvient, mais il y a des choses qu'on oublie tellement dans ce que Claire appelait la guerre aux migrants. Je veux dire, il y a des choses qui se répètent, et justement, il faut les archiver. Je dirais encore deux mots. Un, c'est un peu ce que je fais moi, qui sont pas les médias activistes, mais donner les moyens de faire des choses. Je suis informaticienne, hein, je m'occupe de sites web. Donner aux mouvements et à ceux qui les soutiennent les moyens de communication, y compris techniques, et les moyens de s'en servir. Dernière chose, je crois... Non, s'il te plaît. Juste, et ça peut prendre aussi une forme... Désolée de réagir comme ça. Hein, une forme beaucoup plus ludique, mais belle et efficace. C'est le collage que fait, par exemple, Rodolphe Burger quand il va prendre les petits papiers de Régine et Gainsbourg et qu'il le donne au Gisti, ou quand il va prendre les amoureux au banc public de Brassens et qu'il le donne au mouvement des amoureux au banc public. Merci. Oh, that's my name.
mătate t-o-ntorce-te, întorce-te așa la mine, amândoi s-o frigem bine, întorce-te așa la mine, amândoi s-o frigem bine, dum dacă dumă dacă dai dumă la la, dum dacă dumă dacă dai dumă la la, dai dumă dacă dai dumă la la, rec dacă dumă dacă dai dumă la la. Continental vinde carne fără oase la gage celui frumos. Hai dumba 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 și-o vinde cu trei lecinga. Hai dumba 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 și-o vinde cu trei lecinga. O da dumă la la dum dacă dumă la gada dumă la la. O da dumă la la dum dacă dumă la gada dumă la la. Rec dacă dumă la gada dumă la la dum dacă dumă la gada dumă la la. Da dumă la gada dumă la la. Rec dacă dumă la gada dumă la la. Mai paro talento, ai dono da da dono da 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 dono da la, ai dono da da dono da 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 dono da la. Oh da dma la la dum da ke dma la ke da dma la la. Oh da dma la la dum da ke dma la ke da dma la la. Rek da ke dma la ke da dma la la dum da ke dma la ke da dma la la. Da dma la ke da dma la la. Rek da ke dma la ke da dma la.